Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria « Seigneur, sauve-moi !» Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent adorer Jésus et dire « Tu es véritablement le Fils de Dieu !» Alors vous allez me dire, c'est un message de vacances, on est au bord du lac, hein, il y a des barques, je ne sais pas s'il fait chaud ou froid, en tout cas, pour nous, c'est pas terrible aujourd'hui, enfin en tout cas hier. Je voudrais, comme à mon accoutumée, essayer de replacer ce passage dans son contexte, déjà pour bien comprendre ce qu'il nous est dit. Au début du chapitre 14, Jean-Baptiste vient d'être assassiné par Hérode. Pas très réjouissant comme début. Jésus, l'ayant appris de la bouche des disciples de Jean, eux-mêmes, monte dans une barque pour trouver un lieu désert où il pourra prier et pleurer son ami et cousin d'ailleurs. Pourtant, pour Jésus, c'est raté. Pas de repos, pas de répit, tout simplement parce que la foule, qui a eu vent de son petit déplacement, l'a suivi et l'attend à son arrivée au sortir de la barque. Nous voyons dans beaucoup de passages de la Bible que Jésus se repose rarement, pour pas dire très peu. Il a toujours en vue la foule, en vue les gens qui l'entourent, pour les enseigner, pour les guérir. Le verset 14 du chapitre 14 nous dit, d'ailleurs, « Comme il sortit de la barque, il vit une grande foule et fut ému de compassion pour elle, et il guérit les malades. » Quoi de plus beau que cet œil attendri, ému de Jésus, en voyant cette foule? Dans d'autres passages, il nous dit « Comme si elle n'avait point de berger. » Immédiatement, Jésus voit leurs besoins, Jésus voit leur soif, et évidemment leur manque d'une vérité spirituelle, d'une vie spirituelle. Et donc, Jésus passe toute la journée, au lieu de se recueillir, à guérir les malades. Et le soir venu, il nourrit miraculeusement 5000 hommes, et il nous est dit sans les femmes et les enfants. On va dire que ça va faire environ 10 000 hommes, 10 000 personnes, environ. Ça fait beaucoup de gens, ça, pour quelques pains et quelques poissons, n'est-ce pas? Et Jésus, après avoir renvoyé la foule, va pouvoir enfin prendre quelques repos. Il désire se retrouver tout seul sur la montagne pour se recueillir, prier et évidemment faire le deuil de Jean-Baptiste, son cousin, qui vient d'être assassiné. Pour cela, il a une dernière chose à faire. Il n'est pas tout à fait seul. Ses disciples sont restés. Ben oui. Donc, il renvoie aussi les disciples en les obligeant, je dis bien les obligeant, à monter dans la barque et à traverser la mer de Galilée. Waouh ! Jésus, donc, envoie ses disciples sur un lac extrêmement grand, connu pour ses tempêtes violentes et subites. Le soir, sachant qu'il passerait toute la nuit à ramer, au propre comme au figuré. Oui, vous allez me dire, c'est Jésus, il n'est pas sympa avec ses disciples quand même. Il aurait pu quand même les ménager un petit peu, parce que les disciples certainement étaient aussi fatigués que Jésus, certainement. Hein. Ça, c'était une petite aparté. Donc le contexte n'est pas très réjouissant pour Jésus, n'est-ce pas? Il est en deuil. Il aimerait bien se reposer et être seul pour prier, et pourtant, il n'y arrive pas. Donc il va quand même provoquer ce moment de calme et de recueillement lui-même. Revenons donc à notre texte. Donc Jésus, nous voulons le dire, oblige ses disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il traverse la mer de Galilée. Et j'aimerais qu'on puisse maintenant focaliser un petit peu sur les différents protagonistes de cette scène, qui est quand même assez mélodramatique, hein, vous allez voir. C'est pas rien. Alors tout d'abord, on va se focaliser sur les disciples. Les disciples. Alors, dès le verset 22, hein, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté, pendant qu'il renverrait la foule. Dès le verset 22, les disciples sont déjà, je dirais, dans une situation plutôt difficile. Pourquoi ? Alors, j'ai retenu quatre points au niveau des disciples, par rapport à leur situation. Déjà, premièrement, Jésus n'est pas avec eux dans la barque. Ah oui, ils sont partis tout seuls, les pauvres. Si on se souvient, dans Matthieu 8, 23, lui, Jésus, est monté dans la barque, à ce moment-là, avec ses disciples. Et la tempête s'est enlevée, lui, il dort, au fond de la barque. Mais il est là, quand même. Hein ? Il était avec eux. Et donc, les disciples ont eu la possibilité de le réveiller pour qu'il apaise la tempête. Pourquoi ? Parce qu'il était dans la barque avec eux. Bien. Mais cette fois, Jésus les a envoyés seuls. Il n'est pas avec eux dans cette embarcation. Et on l'a vu, il va faire nuit bientôt. Le point 2, c'est l'heure qui est avancée. Ils vont devoir ramer, plus ou moins dans le noir. Et de plus, comme on l'a dit tout à l'heure, ils doivent eux aussi être bien fatigués après leur journée, puisque c'est eux qui ont distribué la nourriture aux 5000 personnes, aux 10 000 personnes plutôt, hein, puisqu'ils ont fait asseoir en rang, etc. Ils sont passés dans les rangs pour leur ramener de la nourriture, donc ce devait être harassant, 10 000 personnes à nourrir alors qu'ils étaient je ne sais pas combien, mais ce n'était pas si nombreux que ça. Donc ils ont passé finalement toute leur soirée à marcher, peut-être même qu'ils n'ont même pas eu le temps de manger eux-mêmes. Le point 3, c'est qu'ils sont sur le lac de Tibériade. Alors, Tibériade, mer de Galilée, lac de Génézaret, je vous arrête, c'est pareil. Hein, c'est des mots, c'est des noms qu'on trouve dans la Bible. Ça marque toujours le même lac, appelé aussi, donc, comme je l'ai dit, Génézaret, mer de Galilée. Mer, parce que c'est quand même un grand lac. Et ce lac, donc, est réputé pour les tempêtes violentes et subites. Alors, à peu près, hein. Il a une longueur de 22 km et de largeur, il fait environ 13 km. C'est un lac, quand même. Hein, une petite mer. Et nos pauvres disciples ont ramé une partie de la nuit. Certainement jusqu'à 3 heures du matin. Hein, avec un vent contraire, en plus, il nous a dit. Pourquoi 3 heures du matin ? Il nous dit, jusqu'à la quatrième veille de la nuit, Jésus vint vers eux. Alors, sachez que chez les Romains, la nuit était divisée en 4 parties de 3 heures, alors que chez les Juifs, elle est divisée en 3 parties de 4 heures. Ça, c'était pour pas faire comme eux, c'est normal. Donc, on pense que, certainement, à la quatrième veille de la nuit, ben, c'était de 3 heures à 6 heures du matin. Donc, ça fait un moment, quand même, qu'ils sont sur l'eau, et donc avec un vent contraire. Alors, je ne sais pas si vous avez essayé de nager dans la mer avec un vent contraire, c'est déjà pas facile. Il y a des bons nageurs, peut-être. En tout cas, pour moi, en général, je m'en retourne à la berge. Je n'insiste pas. Est-ce que vous avez essayé de monter dans un bateau pneumatique quand le vent est contraire ? Là, le vent ne vous demande pas votre avis, il vous renvoie vers la rive directe. Donc, vous n'arrivez pas à avancer, en fait. Et cette barque-là, je pense, avait beaucoup de mal à avancer, malgré beaucoup de disciples qui devaient être en train de ramer. Il n'y avait pas que deux rames, j'espère, pour eux, en tout cas. Donc, c'était une ramée d'équipe, en fait. Mais malgré tout, je pense qu'ils avaient beaucoup de mal à avancer, et déjà fatigués, ils pensent qu'ils devaient s'épuiser, et à 3 heures du matin, ils en avaient ras-le-bol. Dans ces conditions tout à fait extrêmes, et pour mettre le comble à leur malaise, hein, ils voient en plus arriver, marchant sur l'eau, un homme. Waouh ! Alors pour eux, évidemment, un fantôme. Parce que quelqu'un qui marche sur l'eau, c'est pas très naturel. Ils ne reconnaissent peut-être pas directement Jésus. Ça n'est pas dit, en tout cas dans le passage. N'oublions pas qu'il fait nuit, hein, et que le vent est violent. Donc c'est peut-être difficile de voir qui réellement est cette personne. Mais peut-être qu'il se doute quand même. Hein, qui sait qui peut marcher sur l'eau à 3 heures du matin, sinon Jésus. Ils voient certainement peut-être un homme qui ressemble à Jésus. Mais ils ont du mal, certainement, à y croire. Pourtant, ils ont déjà vu Jésus apaiser une tempête, immédiatement, rien qu'au son de sa voix. Donc peut-être ils se doutent quand même que c'est Jésus, certainement. Nous ne savons pas exactement ce qui se passe dans la tête des disciples à ce moment-là. De toute façon, ils sont terrorisés, hein, comme s'ils avaient vu un fantôme. Hein, c'est ce qu'ils disent un peu. Et ils poussent des cris, les pauvres. C'est vrai que dans le Nouveau Testament, quand Jésus fait entrevoir sa nature divine à ses disciples, la plupart du temps, eh bien, ceux-ci sont toujours effrayés. C'est normal. Lors de la transfiguration, par exemple, les disciples sont remplis de terreur. Dans Matthieu 17, 6, on le voit. Lorsque Jésus ressuscité apparaît aussi à ses disciples, ceux-ci sont saisis de crainte et d'effroi. Luc 24, 37. Ça, c'est le Nouveau Testament. Mais c'est pas mieux dans l'Ancien. Vous n'en faites pas. Les hommes avaient peur de mourir s'ils voyaient Dieu face à face. Dans Exode 33, 20, il nous est dit « Mais tu ne pourras pas voir ma face, car nul homme ne peut me voir et vivre. » Bon. Donc la première réaction de l'homme quand Dieu se manifeste corporellement, ben, c'est la peur. On n'a pas l'habitude de voir Dieu dans toute sa gloire face à face. Un jour, on le verra face à face et nous le verrons tel qu'il est. Mais parce que nous serons changés. Le corps mortel, lui, ne peut pas voir Jésus, ne peut pas voir Dieu glorifié. Et notre corps sera changé en un instant, et à ce moment-là, nous pourrons contempler notre Sauveur et Dieu lui-même. C'est pour cela que Jésus leur dit, « Rassurez-vous, c'est moi. » Ouf. Déjà, je pense que là, ils sont un peu rassurés, mais pas trop, peut-être, hein, parce qu'il est quand même toujours au milieu de l'eau, à quelques encablures de la barque, hein, et il tient dessus, hein, donc c'est pas tout à fait normal quand même. Et ce sont souvent les premiers mots de Jésus ou de Dieu ou de ses anges lorsqu'ils apparaissent aux hommes. On voit pour Zacharie, n'aie pas peur Zacharie, n'aie pas peur Marie, n'ayez pas peur, dit l'ange aux femmes venues au tombeau par exemple. Tout ça parce que les apparitions, les théophanies qu'on appelle de Dieu, forcément Dieu est au courant que ça fait peur. Donc il rassure en premier. Évidemment, il y a un contraste entre les disciples qui rament avec peine contre le vent, en pleine nuit, et Jésus, qui vient à eux, marchant sur l'eau, tranquillement, dominant complètement la situation, lui, il n'a pas de problème. Les éléments aussi, comme lorsqu'il avait apaisé la tempête. Il a l'air tranquille, presque souriant, certainement. Eh bien, lui, forcément, il n'a pas besoin de ramer. Ça, tu n'as pas dû le fatiguer beaucoup. Dans ce passage, on parle finalement très peu des disciples, dans une certaine mesure. On voit la barque où ils rament et leur cri de peur. Ils ne sont même pas nommés. On ne sait pas quels sont les disciples qui sont dans la barque. Ils restent un peu spectateurs, d'ailleurs, passifs, de la scène entre Pierre et Jésus. Contrairement à Pierre, ils ne se mouillent pas, ni au propre, ni au figuré. Hein, ils ne vont pas essayer de sortir de la barque. Pourtant, on peut quand même noter une progression dans leur compréhension de la nature de Jésus. Entre l'épisode de Matthieu 8, où il réveille Jésus pour apaiser la tempête, et notre récit actuel. En effet, dans le premier passage, il s'exclame « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» dans Matthieu 8, 27. Et on voit maintenant leur évolution. Dans notre passage, il est dit « Tu es véritablement le Fils de Dieu ». Quel changement! Là, ils voient apparaître quelque chose de nouveau pour eux. C'est la divinité de Jésus. Et c'est une chose extrêmement importante. Et c'est là qu'on peut commencer à faire des applications de ce passage. Ce ne sera pas les seuls, mais dans notre vie chrétienne, Dieu peut nous envoyer, certaines fois, sur des chemins difficiles. Et il peut pour un temps nous laisser nous débrouiller tout seul même. C'est vrai. Qui n'a pas ressenti un grand vide, certaines fois, dans certaines circonstances? Il nous semble alors que Jésus est lointain. Nous prions, nous lisons la parole de Dieu, et il nous semble que Dieu ne répond pas, comme d'habitude. C'est ce qu'on appelle, en quelque sorte, le désert spirituel. Alors, quand on est dans un désert spirituel, on est toujours en train de se poser les mauvaises questions. Alors, si je suis là, si Dieu ne me répond pas, ben, je dois être sur la mauvaise voie. J'ai fait quelque chose qui lui a déplu. J'ai un péché dans ma vie, etc., etc. Ce désert spirituel génère beaucoup de malaise et beaucoup de questions. Jésus semble ne pas être dans notre barque à ce moment-là. Sommes-nous réellement dans la volonté de Dieu quand Jésus n'est pas là? Dieu nous mène certaines fois sur des chemins ténébreux même, où il nous semble que nous allons être dépassés. C'est au-dessus de mes forces, on va s'écrier. Ou alors je suis trop fatigué. C'est en dehors de mes compétences également. Pourquoi Dieu m'a amené là? Mais je n'y comprends rien. Moi, je ne suis pas fait pour ça du tout. Et pourtant, on est dans la situation et on doit s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Dieu nous amène sur des chemins hostiles où la tempête fait rage également. Et où le chemin à parcourir est beaucoup trop long pour nous et bien trop difficile. Comme la mer de Galilée est réputée pour ses tempêtes violentes et subites, ce genre de chemin nous fait peur par anticipation quand Dieu nous demande d'y aller. Et nous avons du mal à sortir de notre confort, de notre sécurité, relative évidemment, pour le suivre. Et souvent, Dieu nous pousse, dit « Vas-y, je suis avec toi ». Et là, c'est difficile. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas l'habitude de faire ça, d'aller dans l'inconnu. Quand nous n'avons plus aucune ressource ni force pour continuer, Dieu se révèle d'une manière surnaturelle certaines fois, afin de nous amener à la victoire et à une plus grande foi et connaissance de lui. Dieu ne le fait pas juste pour nous faire plaisir. Il veut nous apprendre quelque chose, il veut nous enseigner. Dans nos pays occidentaux et nos églises bien établies, nous avons du mal à concevoir la nature surnaturelle de notre Dieu, comme si nous voulions un petit peu le réduire à notre propre compréhension. Tout ce qui nous dépasse nous fait peur. Et pourtant, Dieu est surnaturel. Nous devons apprendre à marcher par la foi. Ça, c'est ce qu'on chante tous les dimanches. On a beaucoup de facilité à chanter. Par la foi, nous marcherons. Oui. Mais ce n'est pas toujours si simple. Parce que la foi, c'est bien quand tout va bien. C'est bien quand Dieu est là, quand il nous aide, quand c'est la victoire. Mais quand les choses se corsent, la foi, comme on dit, elle vacille un petit peu, certaines fois. C'est pas toujours simple de garder la foi dans les moments difficiles. Et pourtant, c'est dans ces moments-là que nous apprenons le plus. Qu'est-ce que disait Jésus, ou qu'est-ce que disait Dieu à Israël? Vous êtes un peuple courraide. Alors aujourd'hui, j'ai pas de torticolis, mais on a du mal à apprendre les leçons de Dieu. On a du mal. On n'est pas toujours à l'écoute, et on veut souvent faire ce que nous, ce qui nous semble bon. Mais ce que Dieu nous demande de faire quand ça a l'air totalement en dehors de notre compréhension, là c'est beaucoup plus difficile. Alors nous venons de nous concentrer donc sur la situation des disciples dans ce récit. On fait le point. Donc ils sont allés sur la mer de Galilée, contraintes et forcées, parce que je ne pense pas qu'ils y allaient de bon cœur. Eux, ils savaient certainement ce qui les attendait sur ce lac. Ils y sont allés malgré tout, ils ont obéi, c'est bien. Ils ont obéi à Jésus et ils ont ramé les pauvres, jusqu'à plus soif. Et ensuite, ils ont vu cette apparition, ce fantôme, Jésus qui vient à eux. Donc on va maintenant focaliser encore un petit peu plus. Et on va donc focaliser sur un des acteurs principaux de ce passage. Pierre. Les acteurs principaux, c'est Jésus et Pierre, finalement, quand on regarde bien. Les disciples sont là un petit peu un spectateur. Ils ont déjà vu une partie de la problématique. Et maintenant, ils vont voir qu'est-ce qui se passe avec Pierre. À la différence des autres disciples, eh bien, Pierre est le seul qui soit nommé dans ce récit. Et Pierre, on le connaît, on commence à le connaître quand même. Ah, c'est une figure quand même. Dans les évangiles, Pierre, c'est pas n'importe qui. Il est nommé, ça ne m'étonne pas. Ouais. Nous connaissons la nature impulsive de Pierre un petit peu, mais son leadership naturel malgré tout. C'est lui le chef des disciples en quelque sorte. Là, il est toujours en train de les pousser en avant. C'est lui qui se met en avant lui aussi d'ailleurs, un petit peu. C'est un homme de caractère, donc, évidemment avec ses forces et avec ses faiblesses, bien entendu. Dans cette aventure, Jésus veut enseigner les disciples. C'est vrai. Et d'ailleurs, on l'a vu, ils ont évolué dans leur compréhension de Dieu et de Jésus. Mais il veut, évidemment, enseigner plus particulièrement Pierre. Parce que Pierre, il va avoir quand même pas mal de travail par la suite, et il va avoir une destinée qui sort de l'ordinaire, malgré tout. Si on fait une lecture un peu trop rapide de cette histoire, eh bien, on peut avoir un sentiment d'échec concernant Pierre. Ben oui, qu'est-ce qui reste ? Quand on a lu, il s'est enfoncé dans l'eau. Ouais. On ne voit pas qu'il est sorti de la barque et tout, etc. Non, non, on se rappelle seulement que... Ouais, il a coulé. Pourtant, Pierre est le seul qui se caractérise ici par son enthousiasme, son dynamisme et son audace. C'est des qualités, ça, quand même. Hein ? L'enthousiasme, le dynamisme et l'audace. Et on peut diviser son expérience en trois parties. Comme on l'a dit, l'enthousiasme de départ. Quand Jésus lui dit « Viens ben, », j'y vais. Il ne se pose même pas la question. Il sort de la barque en avant. Il est enthousiaste. Il a confiance en Dieu. Il a confiance en Jésus. Si Jésus lui dit de venir, c'est qu'il risque rien. Et donc il lui fait confiance, il sort de la barque. Tout simplement. Seul Pierre est dans l'action à ce moment-là. Les disciples derrière, là. « Non, vas-y, vas-y. » Nous, on reste là, on regarde. Pendant que les autres disciples sont spectateurs, Pierre, lui, il agit. Il est partant pour aller à la rencontre de Jésus sur la mer, démonté. Et quand Jésus lui dit « Viens », il n'hésite pas une seconde. Il quitte la sécurité de la barque, enfin, sécurité toute relative, pour aller vers Jésus, malgré le vent, la nuit, les eaux profondes du lac de Tibériade, parce que le lac, il est profond. Autant il est grand, autant il est profond, entre 30 et 40 mètres de profondeur en moyenne. Donc, s'il coule, on ne va pas le retrouver. Et quand il se retrouve hors de l'embarcation, il commence même à marcher sur l'eau, tout seul, comme Jésus. Cool. Il doit se dire là, alors là, j'ai réussi, c'est bon, je peux continuer. Mais la seconde partie du problème, c'est le doute et la peur. Mince alors. Pierre, après avoir triomphé de sa peur en sortant de la barque, marche tout à fait surnaturellement sur les eaux. Vous avez essayé de... Non, ça ne marche pas. Il faut vraiment que ce soit Jésus qui lui permette de le faire. Mais après cette marche par la foi, il commence à détourner ses regards de la personne de Jésus. Pourquoi ? Parce qu'il y a du vent. Parce qu'il fait nuit, parce qu'il y a beaucoup de choses qui l'entourent, qui le gênent un petit peu quand même. Il se retrouve entouré de ténèbres, de la nuit, dans le vent et flottant sur l'eau. C'est tout à fait naturel, ça. Alors ses doutes et sa peur reprennent le dessus sur la confiance qu'il a eue en Dieu au départ. Souvenez-vous, l'enthousiasme. Eh oui, mais l'enthousiasme, est-ce qu'il perdure longtemps dans les épreuves ? Pas toujours. Il perd pied, il s'enfonce à ce moment-là. Alors, Pierre a une confiance, on l'a vu, mais limitée dans son Sauveur, car il ne connaît pas toute l'étendue de la puissance de Jésus et surtout sa divinité. Pourquoi je dis ça ? Pour lui, il connaît l'enseignement de Moïse et le message de Jean-Baptiste concernant le Messie, bien sûr. Il a entendu l'enseignement de Jésus sur le royaume de Dieu. Ça fait un moment qu'il le suit. Il a vu Jésus calmer même la tempête. Donc, il doit douter quand même de quelque chose, quelque part. Il a vu Jésus nourrir les foules avec quelques pains et quelques poissons. Mais Pierre n'a pas encore reconnu Jésus comme le Messie, comme il le fera bientôt dans Matthieu 16 d'ailleurs. Comme son Messie. à lui. Il lui reste beaucoup de chemin à parcourir avant que sa foi soit inébranlable. Inébranlable. Bon, voilà, c'est dit. Heureusement, Pierre est prévoyant. C'est vrai, Pierre doute, mais il appelle Jésus à son secours. Ouf. Dès qu'il commence à s'enfoncer dans l'eau du lac. Quand il ne peut plus compter sur d'autres interventions que celles de Jésus, il l'appelle à son secours. En effet, alors, il est au milieu de l'eau, on est bien d'accord. Jésus est encore assez éloigné de lui, et la barque est à plusieurs mètres derrière lui. Alors, il ne peut ni avancer, ni reculer sans s'enfoncer complètement. C'est trop tard. Plus aucune possibilité de retourner au sec dans l'embarcation, qui est maintenant trop éloignée de lui, mais pas le temps non plus de s'accrocher à Jésus, car il est encore trop loin, lui aussi, de lui. Il est au milieu, dans une situation dramatique, le pauvre. Et c'est le cri de détresse qui sort de son cœur. Là aussi, nous pouvons faire quelques applications, je pense. Pendant notre périple sur terre, Dieu, tôt ou tard, va tester notre foi, ou l'a déjà fait, ou le fera encore, n'est-ce pas? Un des buts de Dieu, pour nous, c'est de nous rendre dépendants de Jésus. Dieu veut nous apprendre à lui faire confiance, quelles que soient les circonstances. Je dis bien quelles que soient les circonstances, pas juste quand tout va bien, ou quand c'est facile, on va dire. Parce que des fois, on fait des choses pour Dieu qui ne sont pas très simples, mais pour nous, c'est relativement simple. C'est facile parce qu'on a le Saint-Esprit, parce qu'on est plein d'enthousiasme et que tout va bien, tout se passe bien. C'est pour cela que Dieu nous amène parfois sur des terrains inconnus, inhospitaliers, ténébreux, où notre foi va vraiment être testée à ce moment-là. Dans ces circonstances, plus besoin de compter sur notre savoir-faire, ou nos dons, ou notre courage, ou notre force de caractère. Seule l'intervention directe de Dieu peut nous amener à la victoire. Et seulement l'intervention de Dieu. Alors, comme Pierre, l'enthousiasme est souvent notre première réaction, quand même. Car nous voulons sincèrement servir notre Dieu. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup de problèmes qu'on ne veut pas servir notre Dieu. On est zélé pour Dieu, on est plein d'enthousiasme. Mais lorsque la situation nous échappe et que Jésus semble bien loin de nous, alors le doute s'installe. Et nous perdons, hélas, ce bel enthousiasme. Et quand nous ne voyons plus d'issue humaine possible, alors c'est alors là que Jésus peut intervenir personnellement. Pour nous révéler quoi ? Sa puissance, toute simple. C'est là, d'ailleurs, que nous entendons distinctement notre Sauveur nous dire, parce qu'il réapparaît après un certain temps, malgré tout. Il ne nous laisse pas comme ça, il ne veut pas nous faire du mal. Il veut nous apprendre, nous enseigner. Et à ce moment-là, on entend souvent « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Paradoxalement, c'est dans ces circonstances que Dieu œuvre le plus en nous. Et d'une apparente défaite de notre foi, il nous rend plus que vainqueurs à ce moment-là. C'est le paradoxe de la foi. Dieu ne pense pas comme nous. Et ce qu'il fait est toujours parfait. Et nous, évidemment, on se sent très petit à ce moment-là. Et bien c'est justement là qu'est notre place. Et c'est là où Dieu veut nous amener, dans l'humilité au pied du Seigneur. Il fortifie lui-même notre foi par l'épreuve. Lorsque nous voyons la gloire de Dieu se manifester dans ces circonstances tellement difficiles, alors là, notre foi est multipliée et affermie. Car c'est bien là, le but de Dieu, c'est de nous affermir, d'affermir notre foi. C'est pas de nous enterrer, c'est pas de nous faire couler dans le lac, mais c'est plutôt de nous faire marcher sur l'eau, comme lui. Quelle conclusion on pourrait apporter à ce passage ? Déjà, un autre passage, Romains 4, 18, qui nous dit « En espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans sa foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction de ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors on parle de Abraham, bien sûr, le père de tous les croyants. Alors vous allez me dire, mais moi je ne suis pas Abraham. Hein. Ouais, je n'ai pas la stature d'Abraham, ni de Moïse, ni d'Élie, et pourtant. Dieu cherche des adorateurs. Dieu cherche des messagers. Il en cherche également aujourd'hui. La foi n'est pas facile à mettre en œuvre dans certains cas. Et Dieu nous demande parfois de lui faire confiance et de lui croire qu'il peut nous amener à la victoire. Même quand ce qu'il nous demande n'est pas raisonnable sur le plan humain. Il nous demande alors de nous lancer en abandonnant notre sécurité pour répondre à l'appel de Dieu, nous lancer, oser, de persévérer en gardant les yeux fixés sur Jésus à chaque instant, parce que le chemin n'est pas toujours facile, de ne pas nous laisser distraire par les difficultés extérieures, toujours les yeux fixés sur Jésus, et de lui faire confiance car lui-même prend soin de nous. Vous allez me dire tout ça, c'est du blabla, mais quand on est dans l'épreuve, Jésus est là, il ne nous abandonne pas. Alors que dirait Jésus aujourd'hui de notre foi, s'il venait? Serait-il admiratif? Waouh, quelle foi, hein, comme la cananéenne. Ou plutôt attristé peut-être, hein, c'est... Quand tout va bien, ça va, mais après, quand c'est dur, eh bien, tu lâches prise. Eh bien, chacun doit répondre individuellement devant Dieu, sachant que, tôt ou tard, évidemment, notre foi est éprouvée. Certainement, elle l'a déjà été pour beaucoup d'entre nous, et Dieu veut nous faire progresser. Dieu veut nous enseigner, nous apprendre que lui, il est capable de tout. Pour réellement terminer, j'aimerais vous lire Romains 8, 31 qui nous dit « Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Amen. Merci de votre attention.